Mais il nous faut en parler avec amour, même si nous devions tout perdre par notre fidélité, si nous faisons ainsi, Dieu nous bénira. Un grand nombre essayent d'acquérir cet amour et de le produire par leurs efforts. Ils n'y réussissent pas? S'il est profondément enraciné dans notre nouvelle nature, ses effets seront spontanés. Je n'ai pas eu besoin d'apprendre à aimer mes enfants, je ne puis m'empêcher de les aimer. Une jeune fille disait qu'elle ne pouvait aimer Dieu, que c'était pour elle très difficile. Est-ce difficile pour vous d'aimer votre mère? Lui demandai-je. Avez-vous besoin de l'apprendre? Elle regardait vers le ciel avec des yeux pleins de larmes et dit « Non, je ne puis faire autrement, c'est un sentiment spontané. » « Eh bien, repris-je, lorsque le Saint-Esprit allumera l'amour dans votre cœur, vous ne pourrez faire autrement que d'aimer Dieu, ce sera spontané. Quand cet Esprit vient dans une âme, comme la vôtre et la mienne, il nous devient aisé de servir le Seigneur ?» Le premier des fruits de l'Esprit, c'est l'amour, comme il est dit dans Galates 5. 9 grâces différentes sont énumérées dans le même verset et Paul met l'amour en tête de la liste. Il est donc le fruit le plus beau de cette précieuse grappe. On est allé jusqu'à dire que les 8 autres étaient renfermés dans ce mot amour. La joie, c'est l'amour qui s'exhale, la paix, c'est l'amour en repos, la patience, c'est l'amour dans l'épreuve, la douceur, c'est l'amour qui déborde, la bonté, c'est l'amour dans l'action, la fidélité, c'est l'amour dans la lutte, la bénignité, c'est l'amour qui s'exerce, et la tempérance, c'est l'amour discipliné. C'est donc toujours l'amour, l'amour à l'extrême cime, l'amour à la base même, et si chacun de nous maintenant manifestait devant tous ce fruit de l'esprit, quelle influence nous aurions sur le monde? Les agents de police deviendrait inutile, on pourrait laisser là ses habits sans qu'il soit volé, nul n'aurait plus le désir des mal faire. Paul, en parlant de ces 9 grâces, ajoute la loi n'est point contre ces choses. Plus besoin d'avoir de loi. Un homme rempli de l'esprit ne serait pas placé sous les vindictes de la loi et n'aurait pas besoin de surveillance. Nous donnerions congé à la police, les magistrats n'appliqueraient plus le code et les cours de justice n'auraient plus rien à faire. L'espérance triomphante. L'apôtre dit Romains 15, 13 que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui vient ensuite, c'est donc l'espérance. Avez-vous remarqué que ceux qui perdent cette grâce ne sont plus jamais employés dans l'œuvre par le Maître? J'ai observé partout où je suis allé que ceux qui travaillent pour le Seigneur, hommes ou femmes, et qui ont perdu l'espérance, ont très peu de succès. Considérez-les. Je n'en ai pas vu qui ait réussi à édifier le royaume de Dieu sur la terre. L'espérance est nécessaire, et c'est le Saint-Esprit qui la donne. Que cet esprit descende sur une église où il n'y a pas eu de conversion depuis des années et qu'il transforme plusieurs personnes, vous verrez alors comme l'espérance sera tout de suite ravivée. Un homme rempli de l'esprit sera aussi plein d'espérance, il regardera vers l'avenir avec joie parce qu'il le verra tout brillant, persuadé qu'il est, que le Dieu de toute grâce fera de grandes choses. Il est donc important pour nous de posséder l'espérance. Quand un chrétien l'a perdu, il a perdu aussi sa communion avec Dieu, l'Esprit ne repose pas sur lui quand il fait l'œuvre. Il est peut-être sauvé, mais tellement découragé qu'il est incapable de faire un service utile. Savez-vous qu'il n'est dit nulle part dans les Écritures que Dieu ait employé une personne découragée? J'étais, il y a quelques années, très découragé dans mon œuvre et prêt à suspendre ma harpe au saule du rivage. Depuis plusieurs semaines, mon esprit était affaissé et oppressé quand je reçus la visite d'un ami qui dirigeait une classe biblique très considérable. J'examinais d'ordinaire ses notes de l'école du dimanche, qui équivalaient à un sermon. Il me dit en entrant « Sur quel sujet avez-vous prêché hier ?» Je le lui dis. « Et moi sur Noé, » reprit-il. « Avez-vous jamais parlé sur ce texte et étudié ce caractère ? » Non, je n'ai pas étudié cette vie d'une manière particulière. Eh bien, elle est des plus étonnantes, il vous serait bon de la méditer, faites-le. Dès qu'il fut sorti, je pris ma Bible et je lus l'histoire de Noé. Je fus saisi par l'idée qu'il avait travaillé 120 années, sans avoir converti une seule personne, et malgré cela il n'avait point été découragé. Eh bien, me dis-je, je ne dois pas me décourager non plus. Je fermai ma Bible et je sortis pour aller à la réunion de prière. Le nuage était dissipé. Quelqu'un y raconta que dans une petite ville, une centaine de jeunes convertis s'étaient joints à l'église, et je me dis, Noé n'aurait-il pas désiré d'entendre une pareille chose? Et cependant, il travailla 120 ans sans se décourager. En ce moment, un homme traversait la nef et se tenant debout dit, mes amis, priez pour moi, je suis perdu. Et je me dis, Noé n'aurait-il pas désiré d'entendre cette parole? Il ne l'a jamais entendue et n'a pourtant pas été découragé. Oh! Chers enfants de Dieu, ne le soyons pas nous-mêmes. Demandons au Seigneur de nous pardonner si nous l'avons été, demandons-lui qu'il mette en nos cœurs l'espérance, afin que nous ayons toujours confiance en l'avenir. Il m'est bon de serrer la main aux amis que je rencontre quand je les vois joyeux dans l'espérance, tandis que d'autres me communiquent une sombre impression, accablés qu'ils sont par ceux qu'ils ne voient que le mauvais côté des choses, les obstacles et les difficultés du chemin. La liberté. Un autre don du Saint-Esprit, c'est la liberté. Galates 5, 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il produit l'amour, il inspire l'espérance, puis il donne la liberté. C'est cette dernière grâce dont plusieurs églises ont besoin de nos jours? C'est triste de constater que dans les meilleurs, avant que Dieu puisse faire son œuvre, il faudra procéder aux funérailles du formalisme et l'enterrer si profondément qu'il ne puisse ressusciter. Quand l'évangile est prêché, les gens se mettent à critiquer comme ils le feraient pour une pièce de théâtre, et c'est ainsi que bien des chrétiens de profession ne pensent jamais à écouter ce que l'homme de Dieu a à leur dire. C'est une tâche ardue que d'annoncer la parole à ces esprits portés à la critique humaine, tandis que là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Très souvent, une dame écoute une centaine de bonnes idées dans un sermon et n'est frappée que d'une seule toute petite qui est hors de propos. Elle revient chez elle, se met à table et exprime hautement sa désapprobation sur cette regrettable chose même devant ses enfants, sans dire un mot des bonnes qu'elle a entendues. Voilà ce que font les personnes disposées à la critique. Dieu n'emploie pas des captifs pour son œuvre. Il ressemble à Lazare sortant de son sépulcre tout lié de bandelettes. Ces bandes lui fermaient la bouche et il ne pouvait parler. Il avait pourtant la vie, vous ne pouvez le nier. De même, plusieurs chrétiens vous diront quand vous les presserez de travailler pour le maître. J'ai la vie, je suis chrétien. Vous ne pouvez mettre cela en doute, mais ils ont encore les pieds et les mains liés. Que Dieu brise ses fers et mette ses chers enfants en liberté. Je crois qu'il veut le faire afin d'avoir des ouvriers qui travaillent et qui parlent pour lui. Combien voudraient se lever et dire quelques mots pour Christ dans une réunion intime de prière? Mais il y a un tel esprit de critique dans leur église qu'ils n'osent le faire, et ainsi ils manquent de liberté? S'ils se lèvent, ils ont tellement peur de ces critiques qu'ils tremblent et se rasseyent, ils n'ont pas le courage de parler. Tout cela ne vaut rien. L'esprit est venu justement pour nous donner la liberté. Esaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Vous trouverez cette liberté partout où l'œuvre de Dieu prospère. Les gens ne craignent plus alors de prendre la parole, et quand la réunion est terminée, ils ne s'empressent pas de mettre leur chapeau pour partir au plus vite, mais ils se serrent la main, c'est là un signe de liberté? Un grand nombre vont aux réunions de prière avec un sentiment légal qui les glace. C'est mon devoir d'y aller, disent-ils, et ils oublient que c'est un glorieux privilège de se réunir pour prier, de se fortifier et de s'aider mutuellement dans le désert de la vie. Nous avons besoin d'amour. Ne sentons-nous pas que nous en avons besoin? Ne désirons-nous pas aussi de voir briller l'espérance sur notre sentier? N'avons-nous pas besoin de liberté? Eh bien, toutes ces grâces sont des dons du Saint-Esprit. Prions pour les recevoir. Nous lisons Hébreux 9, 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. L'accès est donc libre pour pénétrer dans le sanctuaire et pour demander l'amour, la liberté et une glorieuse espérance. Nous n'aurons pas de repos jusqu'à ce que nous ayons reçu de Dieu une puissance pour pouvoir travailler pour lui. Si je connais bien mon propre cœur, je puis dire que je préférerais mourir plutôt que de vivre comme autrefois étant un chrétien de nom que Dieu n'employait pas pour avancer son royaume. Vivre pour l'amour de soi est une pauvre vie bien vide. Cherchons donc à être utiles, des vases prêts à être mis au service du Maître, brillant de la gloire de Dieu et du Saint-Esprit. Chapitre 2. La puissance dans le témoignage. L'Église ne comprend pas assez ce que c'est que de rendre témoignage avec la puissance du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que nous soyons plus au clair sur ce point, nous travaillerons avec désavantage. Jean 15, 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Nous voyons ici que le Saint-Esprit, après sa venue, devait rendre témoignage à Christ. Dans le second chapitre des Actes, nous lisons qu'au jour de la Pentecôte, quand Pierre eut rendu témoignage à l'œuvre du Sauveur, le Saint-Esprit descendit et convertit des centaines et des milliers. Ainsi donc, un homme ne peut prêcher efficacement par lui-même, il doit avoir l'Esprit de Dieu pour en être rendu capable et étudier la Bible afin que son témoignage soit d'accord avec les pensées de cet Esprit. Ce qu'est le témoignage ? Quand nous laissons de côté les vérités évangéliques et ne plaçons pas Christ devant nos auditeurs, le Saint-Esprit n'a pas d'œuvre à faire. Au jour de la Pentecôte, dès que Pierre rendit témoignage à ce fait, que Jésus était mort pour les péchés, qu'il était ressuscité et élevé dans la gloire, l'Esprit descendit pour rendre témoignage à la personne de Christ et à son œuvre. S'il n'avait pas rendu témoignage à la prédication des faits de l'Évangile, croyez-vous que l'Église eût subsisté durant 18 siècles? La mort, la résurrection, l'ascension et la naissance du Sauveur auraient été oubliées depuis longtemps et la preuve c'est que lorsque Jean-Baptiste commençait son ministère, les Juifs ne se souvenaient déjà plus de la naissance du Christ arrivé 30 ans auparavant. Ils ne se rappelaient plus l'histoire des bergers dans les plaines de Bethléem, l'étonnante scène du Temple où Jésus parlait au vieux docteur, ni la venue des mages à Jérusalem. Mais dès que Jean arriva sur les confins du désert, ces choses leur revinrent à la mémoire. Si donc l'Esprit n'était pas descendu d'en haut sur l'Église, tous les grands faits de la mort et de la résurrection du Christ auraient été ensevelis dans le plus profond oubli. Une plus grande œuvre. Le témoignage de l'Esprit est une puissance. Je ne comprenais pas autrefois pourquoi Jésus avait dit que ceux qui croiraient en lui feraient de plus grandes œuvres que les siennes. Ces paroles étaient une pierre d'achoppement pour moi. Je me disais, mais quelles œuvres plus grandes que celles du maître un chrétien peut-il faire? Qui peut par une seule parole ressusciter un mort déjà corrompu? Pourtant, je reconnais toujours mieux qu'influencer une volonté humaine opposée à celle de Dieu, la voir se briser et se soumettre est une œuvre plus grande que la résurrection d'un mort. Celui qui a créé un monde peut vivifier une âme morte, cependant je crois que le plus grand miracle, c'est la Pentecôte. Je vois là des hommes remplis de prévention, de malice, d'amertume, les mains encore dégoûtantes du sang du Fils de Dieu, se tenir devant un homme illettré, méprisé, haï par eux, l'écoutant prêcher, se convertissant par milliers, et prêt désormais à suivre Jésus-Christ et à donner leur vie pour lui. Saint Étienne et d'autres martyrs furent peut-être convertis ce jour-là. L'œuvre de la Pentecôte me semble le miracle le plus extraordinaire que le monde ait jamais vu, mais si Pierre avait parlé sans avoir en lui le Saint-Esprit, il n'aurait certainement pas eu de si merveilleux résultats. La loi juive exigeait toujours deux témoins dans une procédure. Quand Pierre prêchait, nous voyons avec lui un second témoin. L'apôtre rendait témoignage de Christ et l'Esprit rendait témoignage en même temps de l'incarnation, du ministère de la mort et de la résurrection du Sauveur. Le résultat fut la conversion d'une multitude. De nos jours, si des multitudes ne se convertissent pas, c'est que les prédicateurs oublient de parler de la croix. Et voilà le Christ lui-même derrière des sermons sans saveur écrits dans un langage raffiné. Ils ne le présentent pas tel qu'il est devant leurs auditeurs, et je crois que c'est pour cela que l'Esprit de Dieu n'agit pas avec puissance dans nos églises. Ce qu'il faut à un monde qui se perd, c'est qu'on lui montre Christ. Le monde peut se passer de vous et de moi, mais il ne peut se passer de Christ, et c'est pour cela que nous devons rendre notre témoignage à ce précieux Sauveur. Je suis convaincu que les âmes ont faim et soif de cette grâce qui seule peut les satisfaire. Des milliers sont assis dans les ténèbres, sans voir la grande lumière, et quand nous leur prêchons Jésus sincèrement, fidèlement, lui montrant lui et non nous-mêmes, l'exaltant lui et non nos théories, nos opinions ou quelques fausses doctrines, c'est alors que le Saint-Esprit vient apporter son témoignage pour confirmer la vérité de ce que nous annonçons, il l'accompagne. De résultat. C'est la preuve la plus évidente de la divinité de notre évangile, puisque Christ a déclaré que l'Esprit le glorifierait et témoignerait pour lui. Au moment même où Pierre prêche à Christ, nous voyons le Saint-Esprit descendre sur la multitude et montrer par des signes visibles de puissance que tout ce qui venait d'être dit était la vérité. Un guide sûr. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il vous conduira dans toute la vérité. Il n'existe donc aucune vérité nécessaire que l'Esprit ne s'engage à nous révéler si nous le laissons agir en nous livrant à ses directions. Nous aurions eu bien moins de sombres heures si nous l'avions pris pour notre conseiller et notre guide. L'eau ne serait pas allée à Sodome, et David ne serait pas tombé dans le péché, et n'aurait pas eu tant de chagrin de famille s'ils avaient été conduits par l'Esprit. Nos églises sont remplies de personnes qui marchent dans les ténèbres pour avoir fait comme eux. Que penseriez-vous d'un messager qu'un époux enverrait à sa femme et qui ne parlerait à celle-ci que de lui-même en oubliant, et celui qui l'envoie est le message dont il est chargé? Si donc nous parlons par le Saint-Esprit, nous rendrons témoignage de Christ. C'est cet Esprit qui sur cette sombre terre nous révèle ce qui concerne le Sauveur absent et nous conduit dans toute la vérité. Rampère dans les ténèbres. De nos jours, un grand nombre d'enfants de Dieu commettent un grand péché sans même s'en douter. Puisque l'Esprit doit nous enseigner la vérité, nous n'avons pas besoin de chercher un autre guide. Pourquoi donc nous cacher pour consulter un médium qui évoque les esprits des morts? Savez-vous bien les menaces de la parole contre cet affreux péché? Je pense qu'il est le plus grand de ceux qui se commettent de nos jours et que je déshonore le Saint-Esprit si j'évoque un mort pour le consulter, même si ce mort pouvait me répondre. Le châtiment de Saül ne fut-il pas bien terrible? 1 Chronique 10, 13-14. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaï. Il commit un double péché, contre le Seigneur et sa parole, en recherchant les évocateurs des morts au lieu de consulter Dieu. C'est pourquoi l'Éternel le fit mourir et transféra le royaume à David. Il mourut donc pour ces deux forfaits. De nos jours, un grand nombre de chrétiens de profession ne croient pas mal faire en allant interroger un médium qui prétend faire parler ceux qui ne sont plus de ce monde. C'est un déshonneur pour celui qui nous donne l'Esprit pour nous enseigner toutes choses. Tout ce que je dois savoir, Tout ce qu'il m'est bon de connaître, l'esprit me le révèle par le moyen de la parole écrite. Vous savez ce que le mauvais riche demande à du fond de l'enfer, et la réponse du Sauveur, ils ont Moïse et les prophètes, c'est-à-dire toute la portion des Écritures à leur compléter, elle était suffisante. Mais plusieurs ne s'en contentent pas et se détournent vers de fausses lueurs. Ésaïe 8, 19. Si l'on vous dit consulter ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez un peuple, ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Que sont ces tables tournantes et ces mystères occultes? Croyez-vous que Dieu ferait éteindre toutes les lampes s'il voulait vous envoyer un message? Le maître n'enseignait rien en secret. Le prophète ajoute, Jean 18, 20, Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Si quelqu'un, homme ou femme, vient à nous avec une fausse doctrine, il est du diable et ennemi de toute justice. Ceux qui consultent les esprits attaquent la Bible et n'y croient pas. Quelques-uns disent qu'il faut connaître les deux côtés des choses, mais si on m'apportait une lettre remplie de calomnie contre ma femme, je ne croirais pas de mon devoir de la lire, je la déchirerais et la jetterais à tous les vents. Dois-je lire aussi tous les mauvais livres pour connaître les deux côtés de toutes les questions? Ouvrirai-je un écrit qui parle mal de mon maître? Non. 10 000 fois non, je n'y toucherai pas. 1 Timothée 4, 1 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. N'est-ce pas très clair, doctrine des démons? Beaucoup d'autres textes nous avertissent des tromperies de Satan. Rappelons-nous donc que l'Esprit nous conduira dans la connaissance de la vérité et que nous n'avons pas besoin d'autres guides?